Bonjour à toutes et à tous. Je vais continuer aujourd'hui notre propos sur l'art, sur les arts visuels, tel que l'on a eu là ces dernières chroniques à partir du Centre Pompidou. Nous avons pu parler du musée Pierre Soulages à Rodez et également de la relation qui existe entre le politique aujourd'hui et les artistes. Donc c'est quelque chose d'intéressant puisque je vous avais dit qu'il y avait quelques problèmes dans cette relation qui n'était pas une relation directe puisqu'il y avait un acteur qui était la technostructure, la technicité culturelle qui s'immisçait dans ce rapport qui aurait pu être un rapport, on peut dire démocratique, ou du moins reprenant le fil du commanditaire responsable et des artistes créateurs. Alors cela nous amène à réfléchir sur une définition de l'art, ou du moins le rôle qui existe de l'art. Il s'agit effectivement des arts visuels dont on parle dans notre société. Alors, il est vrai que ce rôle a changé au cours du XXe siècle. On peut dire que les modes de représentation techniques offerts par la photographie, le cinéma, la télévision ont bouleversé le rôle de l'image. Mais à mon sens, c'est un peu facile de résumer les choses ainsi parce que ça renvoie justement les arts plastiques à une sorte de déresponsabilisation par rapport au rôle social qui était le leur jusqu'ici. Alors, on date la rupture après le mouvement moderne. Du peintre, ou je ne sais pas comment peut-on l'appeler, parce qu'il a peint assez peu de tableaux, Duchamp, qui aurait révolutionné la manière de percevoir l'art et aurait révolutionné l'art lui-même. Alors ça, c'est quelque chose qui est enseigné, qui est répété par les médias. Et d'abord, je m'inscris en faux dans la mesure où c'est un événement qui a été surtout refabriqué par la suite. Si vous prenez les journaux de l'époque ou ce que l'on peut avoir au niveau historique de cette immédiate après-guerre, où on a effectivement le mouvement surréaliste, le dadaïsme, des mouvements qui sont en rupture avec, on peut dire, les traditions, à la fois d'ailleurs les traditions classiques, mais aussi les traditions que crée le mouvement moderne. Et là, on a un renversement des codes, et tout le monde sait que Duchamp déclare à partir d'un urinoir et d'un séchoir à bouteille, ceci est de l'art. Alors là, on appelle ça la révolution duchampienne. En fin de compte, ces facéties étaient relativement passées inaperçues à l'époque et elles ont surtout été, on peut dire, réactivées dans les années 50 après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, se mêle à cela ce que je vous disais la semaine dernière de la nécessité d'avoir des avant-gardes d'une manière permanente, c'est-à-dire d'essayer de produire et de reproduire à l'infini ce mouvement qui a été celui du début du XXe siècle, où on a eu la rupture de l'art moderne avec toute la tradition réaliste de la représentation classique. Alors, il est évident que, comme je vous disais, c'est relativement difficile de répéter chaque fois une révolution. La révolution, on l'a fait une fois, puis après, bon, on est dans la révolution. Et il était tentant de dire, nous allons faire une révolution permanente. Donc à partir de ce renversement des codes complet, qui était du nihilisme, une sorte de négation totale de l'art en disant qu'il suffit de désigner un objet pour qu'il devienne de l'art, alors ce que je vous appelais comme facétie devient aujourd'hui l'art contemporain. Alors, cela s'attribue un rôle politique, puisqu'en fait, à travers ces installations, à travers ces performances, c'est-à-dire que l'artiste devient un acteur et qui peut faire des choses extrêmes. Par exemple, on avait vu une performeuse, je ne sais pas comment peut-on dire, Marina Abramovic, qui est aujourd'hui une personne d'un âge certain, mais qui a fait des performances qui avaient effectivement et a eu, ont eu, au moment où elle les a faites, de la publicité. Il s'agissait de donner son corps dans une galerie d'exposition pendant plusieurs heures au bon vouloir des spectateurs, des passants, et avec tous des comportements extrêmes, et cela pouvant aller jusque à l'artiste qui prend son sang pour faire du boudin et le faire partager avec les gens qui viennent à la galerie. Bon, on a vu aussi les monochromes du peintre Klein qui a créé une sorte de bleu, créé entre guillemets bien sûr, et a fait une série de monochromes. Le monochrome, c'est une toile qui est peinte en bleu. Et évidemment, ça apparaissait encore une fois comme révolutionnaire, et ça s'ajoutait à cette suite de choses qui étaient extravagantes. Alors, je cite pour l'anecdote que lors de la galerie où il innovait son invention du monochrome bleu, il avait donné des cocktails à base de bleu de méthylène qui faisaient que les gens buvaient du bleu. Et puis après, et là ça ressemble vraiment à un gag estudiantin, à une plaisanterie, évidemment, les gens urinaient bleu et tout le monde était ravi de cette performance qui mêlait à la fois la toile peinte et à la fois une action qui apparaissait encore une fois décalée, révolutionnaire. Bon, voilà. Alors, aujourd'hui, l'artiste prend ce rôle d'être celui qui est le porteur d'une sorte de vigie dans le monde actuel pour dénoncer. Alors on va dénoncer, aujourd'hui c'est la mode de dénoncer les atteintes à l'environnement, mais ça sera aussi pour dénoncer la guerre, pour dénoncer les violences faites aux femmes, en fait toute une série de thèmes, on peut dire, sociétaux. Et l'artiste fait donc tableau, sculpture, performance sur ces thématiques, et il prend un rôle qui est, comme je vous disais, le révolutionnaire qui nous montre les folies du monde d'aujourd'hui et qui préfigure notre futur. Alors, ce n'est pas du tout, contrairement à ce que l'on peut dire, ce qui a été le rôle des artistes dans l'histoire. Et même pas du tout. Alors, on peut évidemment recomposer l'histoire et refaire et prendre une série d'artistes dits révolutionnaires. Et il y a évidemment tout un roman qui est fait là-dessus. Par exemple, il y a tout un roman qui est fait sur les impressionnistes du 19e siècle qui auraient été méconnus, qui auraient été vilipendés de leur temps, attendu qu'il ne s'agit pas de cela du tout. Il s'agit d'une peinture qui est en modification avec les courants de l'époque, qui sont le grand style classique, c'est-à-dire la représentation des choses telles qu'elles sont, avec des tableaux historiques ou des tableaux mythologiques. Et la rupture des impressionnistes, c'est de faire une peinture qui est, on peut dire, sur des sujets différents, qui prennent les gens dans leur vie quotidienne, mais cela n'a rien de révolutionnaire. On a le nain, il y a toute une école espagnole, même française, où on a ce type de peinture. Donc il y a de plus un mode pictural qui est différent et créé en rupture avec justement cette peinture qui est réaliste et léchée, dont on a une forme qui est à la fois qui respecte la réalité, mais on peut dire qui est dans une sorte d'inachevé dynamique, qui est une forme d'expression différente. Et donc il est normal que cela choquait une partie en tout cas des critiques, mais pas tous, et une partie des bourgeois et des amateurs, mais pas tous, puisque en fait, contrairement à la légende, ces peintres ont eu du succès, et Manet, Monet ont été des peintres de leur temps très connus, mais Sisley, Bissaro, enfin toute cette école impressionniste. Alors on cite toujours Van Gogh, mais Van Gogh était un peintre qui était soutenu par son frère qui était galeriste, qui lui envoyait une somme d'argent assez conséquente chaque mois et qui, en contrepartie, avait ses tableaux. Donc en fait, l'histoire de la pauvreté, et Modigliani aussi, bon, qui a eu un destin tragique parce qu'il s'est suicidé, mais ce n'était pas forcément lié à la peinture, et c'était des problèmes personnels. Mais en tout cas, Modigliani avait un ami banquier qui lui achetait toutes ses toiles, et en fin de compte, on peut dire que ces peintres ont eu du succès de leur temps. Donc, la rupture est tout à fait relative et elle s'est passée à peu près dans toutes les époques. Et il faut dire aussi que cette relation est et ces réactions sont tout à fait saines. Ça prouve qu'il y avait du changement, que les gens s'y intéressaient et qu'on était toujours, de toute façon, dans un rapport entre la peinture et les gens qui achetaient la peinture et qui étaient constantes et toujours les mêmes. Donc, je vais revenir après la pause musicale, justement sur cette rupture moderne, et on va essayer d'aller plus loin sur cette singularité qui est la singularité de notre époque.
So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying when I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. La 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 la, la 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 la. Overflowing ocean takes me to the point I can't control myself. If I knew how to find the words I tell you, I admit that sometimes I can use your help. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. While you're
try to save us. I'm out trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the safest thing. None of the wasted love, la 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 la.
Nous allons revenir sur la singularité de notre époque. Alors, on peut dire qu'il y a trois choses qui marquent la singularité de notre époque. Alors, d'abord, nous l'avons vu, c'était le début de des chroniques, c'était le musée d'art contemporain. C'est déjà une singularité historique, c'est, je le répète encore une fois, c'est les œuvres qui passent directement au musée sans faire l'expérience d'être appropriées par un collectionneur, par un amateur et même par une galerie, par un vendeur. Donc on va directement, bien souvent, de l'atelier du peintre au musée. Et bien sûr, on ne sait pas, et c'est le mystère des critères qui font ce choix. Alors, le deuxième point, ça serait les artistes et les mouvements, les écoles. Alors, je ne sais même plus si on peut parler de ainsi, parce qu'on avait un repérage jusqu'ici entre différentes écoles. Bon, vous le savez, l'histoire de l'Occident, on a les peintres flamands, l'école italienne, Caravages, etc. Enfin, toutes les époques de l'Occident sont marquées par des repères, et pour chacun, ça identifie un type de peinture. Bon, souvent, il y a des figures qui incarnent ce mouvement, mais enfin, c'est repérable. Là, aujourd'hui, nous n'avons plus ces écoles que l'on peut vraiment repérer, puisqu'il y a un foisonnement d'expressions différentes. Alors, certaines reprenant du mouvement moderne, certaines vont faire du cubisme, d'autres vont faire de l'abstraction pure, reprenant d'autres le mouvement réaliste, d'autres vont faire ce qu'on appelle l'hyperréalisme, c'est-à-dire là une précision qui est au-delà de la photographie. Et en fait, tous ces mouvements à la fois sont difficilement repérables, et surtout on n'a pas une continuité aujourd'hui dans l'art contemporain qu'une continuité des peintres identifiable, puisqu'on a des peintres, notamment les plus fameux, comme je vous avais dit la semaine dernière, qui vont changer complètement de parcours au bout de 2 ou 3 ans et vont faire des choses complètement différentes. Alors, par contre, le marché suit derrière, et on a une inflation du prix de ces œuvres qui atteint des sommes extravagantes, si on les compare par exemple à la peinture classique, même les peintures des plus grands peintres classiques sont atteints par des contemporains. Alors il est évident que le grand public va voir cela comme des objets de curiosité. Il y a toujours une forme de snobisme à aller voir les expositions dans les musées ou dans les galeries, mais ça passe à côté du pouvoir d'achat de la plupart des gens. Et on a un phénomène qui est un phénomène assez complexe, qui a été décrit par des auteurs, où on a une sorte d'évasion fiscale qui se fait à travers les œuvres d'art. Alors, bon, je ne vais pas porter de jugement moral, parce que je pense que ça a été aussi fait à toutes les époques. Mais là, on a un phénomène qui est quand même particulier, c'est que c'est des grands collectionneurs ou ces grandes galeries montent les enchères et s'achètent les œuvres et font monter les prix. Donc on a comme des actions en bourse, des peintres qui montent, donc il faut les pendre tant qu'ils montent. Alors évidemment ça peut redescendre, mais en tout cas il y a une sorte de fièvre actuelle. Et puis il y a une course également qui est une course à la notoriété faite par les nouveaux riches aujourd'hui qui vont être les gens enrichis par le pétrole par exemple dans les Émirats. On va avoir également, sans parler des Européens, on va avoir une émergence aussi de milliardaires chinois qui vont acheter des œuvres de tout style, modernes et anciennes, pour se créer une légitimité de richissime, de milliardaire. Alors, le phénomène, encore une fois, a toujours existé, mais là, surtout, il a pris on peut dire le rythme inflationniste que l'on peut retrouver dans des actions de start-up ou de la nouvelle économie où on peut avoir des emballements boursiers. Et donc, on est loin de l'art et on est dans un autre monde où, quand des œuvres atteignent 400 millions de dollars, on est effectivement dans un monde totalement irréel. Et surtout que on perd en parallèle ce qui existait, on peut dire, jusque dans les années 60, même un peu plus, même après, il y avait une critique existante, puisqu'on avait des éléments de comparaison. Donc il y avait le mouvement moderne avec les valeurs du mouvement moderne, et puis il y avait des peintres qui s'en détachaient, qui faisaient de l'innovation, qui répétaient plus ou moins. Donc les critiques d'art existaient et pouvaient comparer. Aujourd'hui, si on lit les journaux dévolus à ce type de fonction, c'est une sorte de du bougli-bougla avec des phrases, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, et c'est le but de la manœuvre, et en tout cas, ce n'est pas de la critique. On peut dire, voilà, ça accompagne, donc on a un texte très embrouillé, une sorte de langage, les précieuses ridicules, que Molière aurait sans doute critiqué et mis en scène. Et à côté, on a donc ces œuvres qui prennent de la valeur dans les grandes foires, dans les musées, et on ne sait pas très bien quel est le processus qui guide tout cela. Alors, effectivement, ce rôle d'élément financier, évidemment, ça échappe à notre compréhension, ce que je remarquais, alors je ne suis pas dans la dénonciation, c'est effectivement c'était le rôle des pouvoirs publics par rapport à cela, par rapport à ce marché privé. Et on se rend compte que, par exemple, et je l'ai déjà dit, c'est l'utilisation des palais nationaux, du Louvre ou de Versailles, ou des grands musées pour légitimer des œuvres, c'est quelque chose qui est un peu douteux, puisque c'est quand même des cautions données par l'État et données à un marché qui est un marché hautement spéculatif. Imaginez la même chose qui serait faite avec des actions boursières. Il y a, dans le cas de la bourse, il y a un gendarme de la bourse à New York, à Paris, à Londres, et on sait, on le voit à travers les films, le Loup de Wall Street et autres, que les gendarmes de la bourse sont à l'affût de, justement, toutes les manipulations du cours qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que là, on est dans un monde où on peut faire ce que l'on veut, et ce qui est un peu fâcheux, c'est l'éventuelle complicité qu'il peut y avoir des acteurs culturels, alors au nom du grand mystère de l'art, puisque aujourd'hui on n'a plus d'éléments de référence, il suffit de dire, et de dire notamment aux élus, vous n'y comprenez rien, et si vous voulez être de votre temps, il faut dire que c'est bien. Bon, c'est l'histoire que vous connaissez du canton d'Andersen, les beaux habits de l'empereur, où, contrairement à souvent l'histoire qui a un peu changé, c'est un brave empereur qui fait son travail d'empereur, et simplement, il est mal entouré, et il a des gredins qui lui vendent un habit, et un habit qui n'est vu que par les personnes intelligentes. Et le brave empereur est très embêté parce que lui, justement, ne voit pas le tissu qu'on lui montre. Donc il se dit, bon, je suis un peu bête, mais je ne vais pas le dire, donc je vais faire semblant de voir l'habit. Donc, et puis, évidemment, tous les courtisans font pareil, et chacun étant embêté en se disant je suis un imbécile et les autres sont intelligents puisqu'ils le voient. Et puis, évidemment, le jour où il va se promener, puisque les escrocs lui ont évidemment se sont agités autour de lui et n'ont pas montré l'habit, eh bien, il y a un enfant, mais un enfant, ça pourrait être, c'est pas. Ça pourrait être n'importe qui dit « mais le roi est nu ». Et alors souvent, l'expression est mal comprise parce que tout le monde dit « mais le roi est nu ». Et alors, on découvre l'imposture. Donc, la question, ce n'est pas de dénoncer le roi, c'est de dénoncer les imposteurs qui sont justement ces intercesseurs entre le peuple et le roi, et qui font qu'effectivement, on peut jouer sur les incompréhensions et sur le snobisme des uns et des autres. Donc c'est, je crois, assez typique de l'époque où l'on vit, où effectivement, les beaux habits de l'empereur, eh bien, tout le monde fait semblant de dire « c'est bien », et on dit en soi-même « je n'y comprends rien », et ou alors « c'est quelle horreur ». Et ça, c'est vraiment, je crois, un des drames de l'art contemporain. Et je suis assez surpris de voir les réactions des gens devant certaines œuvres. Alors, je vais fâcher certains de mes contemporains, et surtout des contemporains occitans, en parlant du musée Soulages. Alors Soulages, comme j'avais dit, bon, était un peintre qui venait à la suite d'un mouvement qui était l'expression lyrique américaine, un mouvement très actif, revendicateur à l'époque, qui a été d'ailleurs financé par la CIA, on le sait aujourd'hui. Et donc Soulages a été un des Français qui ont suivi ce mouvement américain de l'après-guerre, de l'après-seconde guerre. Et à la fin de sa vie, donc ces dernières années, il fait des toiles noires comme Klimt faisait des monochromes bleus qui, comme je vous le disais tout à l'heure, faisaient pisser des gens bleus. Et donc, on a aujourd'hui, le peintre a 101 ans, effectivement, c'est pas lui qui manie les grandes brosses, et je l'avais déjà dit, mais ce qui est très curieux, c'est que tous les gens vont voir ces grands tableaux, je ne sais pas comment appeler ça, si c'est des tableaux, en tout cas, il y a une sorte de pâte noire qui est raclée sur les tableaux. En fait, c'est pas de la peinture, c'est une espèce de bas-relief, et il faut effectivement avoir un spot orienté dessus d'une telle manière pour qu'on puisse voir les frisures de la matière sur le support, mais à mon sens, la peinture ne demande pas des spots avec un angle particulier. La peinture, et d'ailleurs, les bas-reliefs que l'on peut voir ancien ou moderne, il pouvait se voir sous n'importe quel éclairage. Donc là, on a un phénomène particulier. Et ce qui me surprend, c'est qu'il est impossible de critiquer cela sans être vilipendé et traité d'ignare, d'inculte et de tous les noms d'oiseaux, et que des gens me disent « je suis très ému par ce type de peinture ». Alors la question que je pose, comment faites-vous quand vous allez voir Caravage, Poussin, Véronèse ou Matisse, Picasso, que sais-je, les grands peintres reconnus que l'on voit dans les musées. Voilà, c'est sur cette question que je vous laisse et à la semaine prochaine.